France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est après avoir passé une journée très constructive en terrasse, d'un café pour potasser bien sûr l'actualité du jour, et accessoirement, je dis bien accessoirement, profiter du beau temps sur la capitale actuellement, mais ce n'est vraiment pas leur genre, et bien ils sont quand même venus, et merci à eux. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Soizic Kemener, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
De Marianne, également l'économiste Frédéric Farah, bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Le Petit, bonsoir.
Bonsoir.
De Courrier International et l'écrivain et journaliste André Bercoff, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et également de Sud Radio, France Libre TV, enfin plein de choses. Et ce soir, nous parlerons de l'affaire syrienne qui devient une affaire politique, d'Emmanuel Macron qui devient animateur télé. On parlera également de la France en colère, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors vous le savez, bien vieillir, c'est avant tout faire de la gymnastique intellectuelle. C'est le secret de la forme et j'ai l'impression que notre génération va vivre très très longtemps. Et tout ça grâce à la grève SNCF. On en arrive à écrire des choses complexes. Par exemple, aujourd'hui, c'est le premier jour du troisième round du mouvement social des cheminots. Et demain, encore la grève avant de repartir dessus mercredi prochain. Voilà, voilà. Donc il faut le comprendre, c'est fou comme ça nous paraît simple aujourd'hui. À force de s'y habituer, est-ce que ça nous manquera? Là est la question. Aujourd'hui, la direction de la SNCF a diffusé un taux calculé en fin de matinée de 22,5% de grévistes, en baisse de 2,4 points par rapport au 9 avril et de 11,4 points par rapport à la première journée de grève dite perlée. Un léger essoufflement qui montre tout de même un niveau de mobilisation assez haut, des chiffres à évaluer selon les interprétations, comme l'explique ce cheminot cégétiste niçois.
La direction, elle a été malhonnête sur ce point de vue-là. C'est que le premier jour, elle a mis quasiment aucun train, alors qu'elle avait, je pense, avec les volontaires et tout ça, elle avait la possibilité d'en mettre plus. Et à chaque jour, elle rajoute des trains pour faire croire que la mobilisation baisse, alors que la mobilisation ne baisse pas.
Voilà, point de vue d'un cheminot donc de la CGT. Soizic Kemener, est-ce que c'est quoi? C'est une fatigue peut-être des grévistes, ou alors c'est l'effet week-end aussi qui fait que voilà, il y a plus de trains, un peu moins de grévistes?
Non, moi je pense qu'il y a une stérilisation du débat en fin de semaine, tout simplement parce que Emmanuel Macron a parlé jeudi. Oui. Il a commencé à parler, à faire c'est pas des avancées, mais en tout cas il a évoqué la question de la dette. On sait que depuis le début, la parole du président de la République est très attendue sur cette question, tout simplement parce que quand le Premier ministre parle, bah ça n'imprime pas, ça suffit pas, ça influe pas en tout cas sur le débat public. Et Emmanuel Macron va reparler dimanche. Donc c'est vrai qu'on est vraiment là dans une période d'entre-deux. Donc c'est très compliqué d'évaluer, d'avoir une évaluation juste de la situation. En plus, on est dans un mouvement de grève totalement inédit, c'est-à-dire une grève perlée. Donc c'est-à-dire que on est dans des allers-retours permanents entre un service qui recommence et puis un service qui est sur le point de s'arrêter. Donc je pense que c'était très bien joué en termes de communication pour les syndicats. J'avais déjà eu l'occasion de le dire ici. Oui. C'était une très belle réponse au gouvernement parce que c'était une réponse de communication qui fonctionnait. Mais maintenant, ils se heurtent, les cheminots, à cette difficulté, c'est qu'il faut tenir la grève avec cet aller-retour permanent et qui est difficilement saisissable aussi. Ouais. Je pense par l'ensemble des Français, parce que c'est vrai que c'est soit quand il y a un mouvement de grève d'habitude, c'est dur, ça continue et ça avance, tandis que là cet aller-retour est assez difficile à la fois à décrire et à discerner, et on a du mal à voir comment on va en sortir, même si il commence à y avoir des petits bougers du côté de la CFDT.
Voilà, c'est ça. André Bercoff, est-ce que aussi le fait que les discussions à l'Assemblée hier sur le nouveau pacte ferroviaire soient terminées, est-ce que ça étiole un peu aussi la mobilisation?
C'est pas le problème, c'est que plus la grève sera perlée, plus les gens, les usagers, comme on les appelle, ou les clients, appelons-le comme on veut, seront aussi exaspérés. Le vrai problème, là, c'est qu'il y avait un front. Vous savez, on appelait le tiers-état, à un moment donné.
Oui.
Je reviens, il y a 200 ans. Le clergé, la noblesse, oui. Le tiers-état. Le clergé, la noblesse, on sait où ils sont, ils dirigent, ils sont toujours là. Le tiers-état a été totalement fragmenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, les cheminots, on comprend, c'est compliqué, mais en même temps, la retraite à 50 ans, les gratuits, les statuts spéciaux, ça se dit. Mais surtout, il y a des gens qui en prennent plein la poire au niveau de leur travail, au niveau de leur transport, au niveau de dire « mais moi, si je ne suis pas au travail, on va me licencier, etc. » Donc c'est très compliqué. Et puis surtout, il y a cette dette hallucinante.
Voilà,
d'où ils viennent ces 54 milliards? Je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, je découvre ça, je ne suis pas un spécialiste d'eux. Mais je veux dire, 54 milliards de dettes. Alors ils disent « non, c'est pas les cheminots, c'est ceci, c'est cela. » Et on a l'impression que le gouvernement a ça et que, encore une fois, on essaie de tergiverser sans mettre tout sur la table. Et ça, c'est extrêmement exaspérant, et surtout pour les gens qui prennent le train, qui ne peuvent plus le prendre.
C'est ça, alors la dette, on va en parler aussi avec vous d'un instant, Frédéric Farah, mais c'est vrai que Virginie Petit, la dette ne figure pas dans le futur projet de loi, hein, ça a été dit hier, ça paraît assez étonnant. Est-ce que la bataille de l'opinion, on en a beaucoup parlé, hein, oui. Le gouvernement et syndicats, est-ce qu'elle est en train de se gagner de la part du gouvernement aujourd'hui, ou parce qu'on voit aussi peut-être des syndicats qui peuvent être fatigués, parce que c'est long, hein, une grève à tenir.
Mais c'est surtout, c'est ce que disait Soizic, c'est une grève qui a une structure inédite, et il va y avoir sans doute un phénomène d'usure à la fois de la part des usagers et clients, effectivement, parce que, et à la fois de la part des grévistes et des syndicats, parce qu'on n'a jamais vu quelque chose qui tenait, qui est censé tenir aussi longtemps.
Jusqu'au 28 juin,
normalement. Voilà. Ouais. Et avec, effectivement, à la fois ces ruptures de rythme, en fait, qui fait que ça s'émousse, on n'est pas dans un combat permanent, on n'est pas... Donc ça va être très très compliqué à tenir, et effectivement, là on a l'impression qu'avec les interventions d'Emmanuel Macron, le gouvernement reprend la main, en quelque sorte, et reprend la main sur la communication, et possiblement sur l'opinion, oui.
Je vois pas d'accord, André Berkoff.
Juste un mot, et ce qui me frappe quand même, hein, il faut dire, de solidarité, vous savez que la cagnotte pour les cheminots a atteint 500 000 euros.
Oui.
C'est-à-dire que beaucoup de gens donnent. Il y a quand même quelque chose qui est là. On ne dit pas qu'ils ont abandonné les chômeurs, les cheminots, c'est pas vrai.
Ouais. Et donc pourquoi d'après vous? Parce qu'il y a un. Alors on voit des Français qui sont majoritairement contre la grève, mais pourtant qui donnent.
Parce qu'ils ont l'impression qu'on attaque des gens qui effectivement peut-être ont certains avantages, mais à 1300 euros par mois et réparer les rails, c'est peut-être pas un job rêvé.
Oui, bien sûr. Alors on va continuer à en parler dans un instant, notamment de la dette. On va venir vers vous, Frédéric Farah. L'info à 20h10, Marc Potvin.
Deux attaques chimiques ont été menées à Douma en Syrie, la première avec du chlore, la seconde avec du chlore et un autre agent neurotoxique. La France a la preuve que ces attaques ont été menées par le régime syrien. Nouvelle journée de violence meurtrière à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Un manifestant palestinien a été blessé par des tirs israéliens, il n'a pas survécu. Depuis le début des protestations sur place fin mars, 34 Palestiniens ont été tués. Les manifestants demandent notamment la fin du blocus de l'enclave par Israël. Le tribunal de Nanterre décide le gel partiel des biens de Johnny Hallyday. La situation n'évoluera que s'il y a une nouvelle décision de justice ou un accord entre Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet. Ils s'affrontent autour de l'héritage du rocker. Ses deux premiers enfants n'auront pas de droit de regard sur son dernier album. Des salmonelles dans des fromages au lait cru, notamment du Morbier et du Mont d'Or. Ces bactéries ont causé la mort d'une dizaine de personnes entre 2015 et 2016. Information de la cellule Investigation de France Info. Après cette crise, les contrôles ont été renforcés. Et puis en football, on connaît les affiches des demi-finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa. En Ligue des Champions, le Bayern Munich sera opposé au Real Madrid. Liverpool affrontera l'AS Rome. En Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a peut-être évité le pire. Le tirage lui donne pour adversaire Salzbourg. L'autre demi opposera Arsenal à l'Atlético Madrid.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la SNCF hein, ce soir. Ce sont les Franciliens et la région Occitanie qui sont en vacances. Donc j'imagine que vous êtes organisés pour prendre votre train. D'ailleurs, si vous écoutez cette émission, c'est que vous ne le prenez pas. D'ailleurs, apparemment, enfin j'espère pour vous. En tout cas, on parle de la dette. Hein, c'est cette fameuse dette aujourd'hui qui cristallise toutes les attentions. Et ce matin, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, est revenu, le délégué général du mouvement En Marche, est revenu sur cette dette. Et Emmanuel Macron avait évoqué le fait que l'État en reprendrait une partie. Mais pour quel montant? Finalement, est-ce que c'est vraiment le problème, Christophe Castaner?
Quand on dit « pour partie », ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 milliards, 10 milliards, 25 milliards?
Mais ça veut dire que de toute façon, l'État prendra toute sa responsabilité sur la SNCF.
Non, mais là encore, vous ne me donnez pas de chiffres, Christophe Castaner. Les chiffres, ils sont très parlants. 50 milliards. Dites-nous, vous allez en prendre combien?
Mais parce que votre question, vous la posez en sachant pertinemment que je ne vais pas y répondre. Donc on peut faire ça pendant longtemps. Mais parce que le président de la République
a fait une annonce sur la dette. Moi, j'ai rien de concret.
Il a dit, mais parce que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de concret. C'est le principe même de la dette qui est essentiel. C'est le fait de se dire que depuis des années, on a laissé cette dette de côté et qu'on ne l'assume pas.
Ouais, Christophe Castaner a écapé une valeur sur BFM, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de concret, Frédéric Farah, pour comprendre la dette.
Je crois qu'effectivement, il est bien lié à Emmanuel Macron, qui dit beaucoup de choses qui ne sont pas du tout concrètes. Il n'y a pas de choses concrètes chez Macron. Quand vous l'avez écouté, il nous a dit que peut-être il va prendre une partie de la dette. Donc tout ça est bien vague et fait apparaître quoi? Finalement que cette réforme ne répond pas à la question de la dette. Parce que demain, ok, les cheminots ne sont plus embauchés à un statut, très bien, on ouvre à la concurrence. Et en quoi ça règle la dette ? Rien. Donc, en fait, on fait une réforme qui ne répond pas à un problème dont on nous parle tout le temps. Mmh. Et donc, alors ça, c'est un problème. Deuxièmement, pourquoi l'État a pendant longtemps retardé aussi le fait de récupérer la dette de la SNCF ? Parce que c'était au nom des critères de Maastricht. Parce qu'on a dit, ah, bah, si on récupère la dette, ça fait, on va dépasser les déficits et la dette autorisée. Donc, on a refusé de faire ce que l'Allemagne a fait. C'est-à-dire que l'Allemagne a récupéré la dette de la Deutsche Bahn pour permettre à son entreprise de réinvestir à nouveau. Donc, nous, ensuite, on a construit, alors là, c'est extrêmement technique, toutes sortes d'outils financiers pour essayer de masquer, cacher cette dette qui ressort à chaque fois. Mais en fait, le projet du gouvernement, je comprends qu'il n'a rien à dire de concret. Parce que dans le fond, le projet qu'il propose, en rien ne répondra à la dette.
Frédéric Farah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'État, par exemple, prenait complètement la dette, ça veut dire qu'on sortirait de ces critères, justement, de 3%?
Alors, ça, effectivement, ça jouerait sur ces critères, parce que ce n'est pas rien de reprendre 50 milliards. Mais en même temps, ces critères n'ont aucun fondement économique, si vous voulez. Peut-être est-il plus souhaitable de faire en sorte qu'on ait du ferroviaire qui marche et qu'il y ait de l'investissement que de courir après des critères comptables.
Ouais. Virginie Petit.
Oui, je voulais revenir sur l'exemple de la Deutsche Bahn en Allemagne, qui effectivement est souvent cité comme un exemple réussi de libéralisation. Et c'est effectivement parce que l'entreprise a eu les moyens d'investir, parce que la dette a été reprise. Et ils ont tellement investi qu'actuellement, les équipements sur rail sont à peu près d'un âge moyen de 7 ans et demi, alors qu'ils partaient d'équipements beaucoup plus vieux. Et c'est ça qui permet à la Deutsche Bahn d'être compétitive, et c'est ça qui a fait que la libéralisation a réussi. D'accord. C'est parce qu'elle a eu les moyens de pouvoir financer tout ça, et financer et le réseau, et les équipements.
Ce qui me frappe, enfin, je rejoins ce qui a été dit, mais ce qui me frappe quand même, c'est la position de Castaner, qui n'est pas la seule. Mmh. C'est une position, franchement, on a l'impression qu'ils sont des elfes dans Tintin au pays des soviets. Mmh. Et des soviets, enfin, ils en sont encore. Ils disent la dette de l'État. Non mais enfin, c'est quand même hallucinant qu'ils répondent, mais le chiffre, ça n'a aucune espèce d'importance. Ouais. La dette, elle existe, vous savez très bien, je ne vous donnerai pas un chiffre. De toute façon, attendez, l'État va le prendre. Ça veut dire que l'État, c'est quand même les contribuables. Ouais. Ça veut dire l'État, bon, ça veut dire que nous, ben écoutez, c'est, voilà. Eh ben, on va s'organiser, c'est nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, et puis on va s'en occuper. Il y a ce côté, quand même, absolument, je ne sais pas si on peut dire schizophrène ou autre, où est la réalité, mais qu'ils le disent.
Oui,
c'est pas un problème, qu'ils disent s'ils veulent que les gens aient envie de faire des efforts, mais qu'ils le disent.
Une chose, Sozi Kemener, est-ce qu'il y a une volonté aussi du gouvernement, c'est une sorte de combat contre les syndicats, à diviser aussi le front syndical, parce que la ministre des Transports a écrit à l'UNSA et à la CFDT pour souligner que plusieurs amendements ont tenu compte des revendications cheminotes, c'est-à-dire les leurs, il y a aussi cette volonté, parce que comme par hasard, elle écrit à la CFDT, elle n'écrit pas à Sudrail ni à la CGT. Hein.
Et ils essaient depuis le début, ils ont pensé que ça serait presque naturellement, ils ont été surpris de voir ce front syndical, parce qu'ils n'ont pas vraiment cherché d'alliés, parce que les corps intermédiaires, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, une priorité telle qu'on la connaissait auparavant. Mmh. Les autres gouvernements essayaient de négocier qui la CGT, qui la CFDT pour chaque réforme. C'est ce que là, pour cette réforme-là, ils y sont allés presque en frontal. C'est-à-dire que c'était direct, on va accrocher ce pompon, on aura le statut de cheminot, on sera les réformateurs et on va passer en force. Et puis, bon, ça passe pas si facilement que ça, même si ce combat, si jamais il était gagné, serait évidemment crédité in fine à Emmanuel Macron.
Mais il y a
une prise de conscience très tardive du fait que finalement les syndicats fallait leur proposer quelque chose.
Frédéric Farah.
Oui, je crois que c'est ce qu'on a entendu avec Monsieur Macron hier, quoi. Il était un peu droit dans ses bottes et ce que vous avez dit est très juste. Je crois que c'est ça le problème de ce gouvernement, la manière de faire des réformes, c'est un peu sous une forme de caporalisation, c'est-à-dire que les corps intermédiaires ne comptent pas, l'Assemblée, bon, elle doit suivre, c'est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose. Et convaincu quand on l'a entendu hier Emmanuel Macron. Bon, voilà, comme s'il n'y avait rien à négocier, hein, d'une certaine manière. Bon, il faut faire cette réforme. Et maintenant, vous savez, c'est le grand mantra. Alors, donc, c'est la réforme, même si, vraiment, cette réforme ne répond pas aux enjeux du ferroviaire.
Et en même temps, lui, Emmanuel Macron dit, c'est pour l'efficacité aussi, moi, je fais tout ça. Voilà, il faut que ça aille vite, parce qu'il y a un moment, ce pays a besoin, il l'a redit, hein, ça a besoin d'être réformé.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'est ce discours. On n'en peut plus de ce discours, parce que à chaque fois, il y a toujours ce on n'a rien fait, ça fait 30 ans que ça bouge pas, etc. Mais c'est faux. Alors quand il dit il y a des carabistouilles, mais il nous en a raconté des dizaines hier. Hein, c'est parce que le dire qu'on n'a pas fait de réforme, ce sont toutes ces réformes depuis qu'on a ouvert la SNCF, on a dit faut la préparer à la concurrence, qu'on a divisé le réseau, l'exploitation, on a créé une usine à gaz du fait qu'on préparait cette concurrence-là. Il faut pas l'oublier. Et donc après il nous dit faut être efficace pour préparer la concurrence. Bon, pour le moins ça devient complètement obscur.
Virginie Petit.
Oui, sur la forme en tout cas et la façon de mener ces réformes, on a interrogé le correspondant du Times, donc un journal conservateur britannique, ouais. Adam Sage, donc correspondant en France, qui disait Macron est en train de vivre son moment Thatcher actuellement et que ça rappelait Thatcher contre les mineurs dans les années 80. Bon, moi il me semble que
dramatise
un peu, mais que c'est une espèce d'épreuve de force qu'il est en train de vivre là, ou même de provoquer en quelque sorte, et dont il espère sortir gagnant, et ensuite pour asseoir son autorité.
C'est un peu le côté, c'est la mère de toutes les batailles ou pas, celui qui m'énerve pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire si j'arrive à réformer la SNCF, j'arriverai à tout faire derrière.
Mais bien sûr, puisque le but c'est toujours de dire j'ai réussi là où les autres n'ont pas réussi. Donc je fais la réforme du code du travail. Souvenez-vous comment ça avait été compliqué, la loi El Khomri en fin de quinquennat de François Hollande, pas annoncée, etc. Donc il fait l'anti-loi El Khomri, même si dans le fond et dans l'idée et dans l'esprit, on est dans la lancée. Et donc le but c'est maintenant de dire bon, je fais de la transformation, mais il faut que ça se voit. Donc c'est vrai que la fin du statut des cheminots, ça se voit. Donc il y a besoin d'avoir ce moment Macron.
André Berthaud. Oui, surtout que non, mais ça va plus loin pour lui. C'est vraiment une histoire de que le symbole se transforme en acte. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dynamité toute l'opposition. On a vu, enfin, on voit l'Assemblée. C'est vrai, il est tout seul. Hein.
Il est tout seul.
Il a son parti majorité absolue. Ils ont quand même pas. Il n'aura pas les frondeurs, lui, comme Hollande. En tout cas pour le moment. Bon. Et donc il se dit voilà, je vais montrer aux Français que je suis capable de réformer. Et le problème, effectivement, vous l'avez dit, est-ce qu'est-ce qu'il réforme à la CNCF ? C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'il veut un symbole. Il va montrer que s'il fait plier les cheminots, et ben voilà, et c'est vrai que ça lui sera reconnu. Et rappelez-vous, le code travail, ça a bien passé.
Ah, bien
la
sûr.
Première. Donc il se dit, pourquoi ne pas continuer ? Ouais. Et on verra ensuite sur l'école et tout le reste. Tout le problème aujourd'hui, c'est est-ce que ça va passer en acte ou ça va rester au niveau du symbole et de la parlotte ? Voilà.
Allez, dans un instant, on va parler des universités à haut point de crispation en France. L'info à 20h20, c'est Marc Potvin.
Après la fin officielle des expulsions, Édouard Philippe s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre s'adresse aux zadistes. Notre main reste tendue à ceux qui acceptent le processus de régularisation. Ce processus a été prolongé ce matin. Les zadistes ont encore 10 jours pour déclarer leur projet dans le bocage. Suite du troisième épisode de la grève des cheminots, demain, la SNCF donne ses prévisions de trafic. Un TGV et un TER sur 3. Côté transilien, comptez 2 trains sur 5 en moyenne. Cet après-midi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ensemble à Paris, des cheminots mais aussi des étudiants. Plus de 2 tonnes de drogue saisies la nuit dernière en Seine-et-Marne, du cannabis transporté par 2 personnes de nationalité roumaine. L'une conduisait un camion, l'autre un véhicule qui ouvrait ce convoi venu d'Espagne. C'est une information France Info. La mise en garde de la Syrie aux Nations Unies aujourd'hui, elle s'adresse aux Occidentaux. Le pays se défendra s'il est attaqué. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis planchent sur une riposte après les attaques chimiques de Douma. Et puis l'image d'Emmanuel Macron, un peu plus écornée après son interview sur TF1, c'est ce que révèle un sondage Odoxa d'Ensu Consulting pour France Info. Jusqu'à 3/4 des sondés estiment qu'il n'est ni humble ni proche des gens. C'est plus qu'en décembre.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, il y a une dizaine de facultés en France qui sont encore bloquées. Et malgré le fait que le gouvernement n'ait pas souhaité officiellement célébrer mai 68, on a l'impression que certains étudiants avaient un ticket pour la fête, mais ils sont pas au courant qu'elle a été annulée. Après un amphi de la faculté de Nanterre, les CRS se sont intéressés hier soir à la Sorbonne, où les forces de l'ordre ont empêché des manifestants à la réforme de se rendre à une AG avant de les laisser rentrer, et puis finalement d'évacuer. Aujourd'hui, 4 universités donc sont bloquées, une dizaine perturbées. Ce matin, la présidence de l'université Lumière Lyon 2 a fait intervenir à l'aube les forces de l'ordre pour évacuer des locaux du campus des Berges du Rhône, occupés depuis la veille. Tolbiac, à Paris, reste totalement bloqué avec en vedette, je ne sais pas si vous le connaissez sur les réseaux sociaux, le chien Guevara. Hein. On ne sait pas si c'est lui d'ailleurs qui empêche les forces de l'ordre de rentrer. En tout cas, voilà ce qui se passe dans les situations. On voit des professeurs qui peuvent soutenir également les grévistes et certains étudiants qui voudraient avoir cours. C'est assez tendu et c'était encore le cas à Lyon. On les écoute.
Le temps que les lycéens et leurs familles ont pris pour constituer des vœux motivés, tout ça, ça ne sert à rien puisque nous n'aurons pas le temps, vous imaginez bien, d'ouvrir les 3600 dossiers et de lire les 3600 lettres. En fait, dans le département de sciences politiques, on doit être actuellement présent dans le département, quelque chose comme 12 ou 15 enseignants. Nous, ça nous empêche de travailler, c'est un abus de droit. Hein. C'est vrai que là, ils sont majoritaires et je ne remets pas en question le fait qu'ils soient majoritaires là, mais il y a des étudiants qui ne viennent pas, qui pourraient voter, avoir un avis. La plupart des étudiants, je ne pense pas qu'ils soient pour le blocage de la fac.
Voilà, parole de grévistes et non-grévistes à l'université Paris-Lyon 2, Virginie Petit. On ne sait pas trop finalement si c'est fin de partie pour les étudiants, si ça continue. On a du mal à saisir finalement ce mouvement, véritablement.
Oui, et puis très honnêtement, je ne suis pas sûre qu'envoyer les CRS signe la fin de la partie, bien au contraire. Hein. Enfin, ouais. Aurait pu s'essouffler, mais là, ça a tendance à crisper les choses certainement et à se dire que le combat mérite peut-être d'être mené. Donc c'est très très étrange ce qui se passe. Ça n'est pas unitaire.
Ça, oui, c'est exactement. Une certitude, voilà, c'est ça. Celui qui est ménère, on voit en effet des CRS dans les facultés. C'est ce gouvernement, comme Notre-Dame-des-Landes cette semaine, s'est montré quand même la fermeté. Toujours la fermeté.
Ah mais bien sûr, enfin je veux dire c'est vraiment ça, c'est le symbole, les images encore une fois et de dire voilà on ne lâchera pas. Mais ce qui est intéressant dans ce mouvement étudiant, c'est qu'il montre, je parlais tout à l'heure des corps intermédiaires, mais là on voit qu'ils font défaut à la fac. C'est-à-dire que l'affaiblissement de l'UNEF, on le voit là directement. C'est-à-dire que les éléments les plus radicaux qui ont toujours été là, tout le monde a été en fac et tout le monde a vu des AG, tout le monde a vécu ces moments-là et étudiantins.
Mais ceux qui ont pu aller en fac, ils ont fait.
Il y a toujours des éléments plus radicaux, mais là on ne voit que puisqu'il n'y a pas cet amortisseur, ce tampon que faisaient les syndicats. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que c'est pas un mouvement unitaire, c'est vrai que toutes les universités ne sont pas touchées, et surtout Parcoursup, c'est quelque chose qui est défendu par l'opinion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie pour le mouvement pour l'instant dans l'opinion, parce que tout le monde pense que finalement ça ne pouvait pas continuer comme ça à la fac.
En effet, mais on voit qu'il y a plusieurs professeurs, ça c'est une parole isolée, mais beaucoup de professeurs qui disent on ne va pas avoir le temps véritablement de tout lire, en fait, de lire les CV, de lire les lettres de motivation. Ça va être assez compliqué, Frédéric Farin.
Oui, alors c'est effectivement compliqué pour gérer, parce que quand même Parcoursup demande au corps enseignant quand même un effort considérable. Et même s'il n'y avait pas eu effectivement ces événements-là, ça aurait été difficile. Mais je crois que pour Macron, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pris, si je puis dire, dans une lutte des âges. C'est-à-dire, par le haut, on a les retraités qui râlent contre Macron avec la CSG. On voit bien aussi un autre niveau dans les EHPAD ce qui se passe. Et ensuite, par le bas, la jeunesse qui effectivement maintenant se tourne vers Macron contre ce gouvernement, en s'inquiétant d'une sélection, de ce nouveau système qui est Parcoursup. Et je crois que même si encore diffus, c'est pas unitaire, mais il y a quelque chose qui est en train de monter, de se cristalliser à différents niveaux de la société, avec des personnes soit qui entrent dans la vie ou soit qui ont effectivement terminé leur vie active. Et même s'il n'y a pas une convergence entre ces luttes-là, mais on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de naître contre ce gouvernement, même s'il n'est pas encore bien organisé, parce que les corps intermédiaires sont moins à l'œuvre, qu'une opposition n'est pas encore bien structurée, peut-être au Parlement ou pas pleinement. Mais je crois que la réponse par la fermeté permanente et l'idée d'être droit dans ses bottes conduit le gouvernement à l'impasse. Et là, je crois qu'on ne va pas avoir un moment Thatcher, mais avoir un moment Juppé.
Ah, Juppé 95. En même temps, on a son disciple aussi à Matignon, je ne sais pas, c'est Édouard Philippe.
Oui, moi je crois que quand ce gouvernement... Alors, vous avez parlé de fermeté, moi je ne la vois pas, la fermeté. Moi, je crois que ce gouvernement est d'une mollesse absolument totale.
Notre-Dame-des-Landes,
mais justement, parlons de Notre-Dame-des-Landes dans une minute. Jouons pas les scrognonus, mais quand même, 2500 policiers incapables de dégager 200
ZD. Ah, ça y est, c'est fait, là.
C'est pas fait du tout. Il leur a donné jusqu'au 23 avril. Mais non, attendez, ce que je veux dire, c'est que l'image qu'il donne...
Sans blesser grave, quand même. Il fallait le faire sans blesser grave. Pour l'instant, c'est le
cas. Non, je sais, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que à partir du moment où l'aéroport était terminé. Le projet d'aéroport a été éliminé. Bon, il fallait savoir qui restait avec des projets agricoles ou des projets d'installation ou des projets créatifs, c'est très bien, et qui ne restait pas. Moi, je veux dire, encore une fois, il y a un flou.
C'est ce qu'ils font, pardonnez-moi, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils ont recensé, parce que toute la question, c'est que les zadistes, ils voulaient un projet global.
Ça fait 4-3 mois.
Il faut le temps de déposer.
Ils ont eu 6 mois pour faire ça. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller mettre les chars, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que le spectacle qui est donné n'est pas du tout un spectacle de fermeté. Deuxièmement, alors le plus beau quand même, arrivons aux étudiants.
Oui.
Magnifique quand même. Alors là, moi j'adore que ces étudiants, les Che Guevara d'aujourd'hui, manifestent pour avoir 10 sur 20 ni 10 sur 20 pour tous. Les notes. Ce matin, Nanterre, les professeurs ont donné 20 sur 20 aux étudiants. On a dit aux étudiants, vous êtes dans une période difficile, excusez-moi, on vous donne 20 sur 20. Et c'est comme ça qu'on va avancer, et c'est comme ça qu'on va faire. Alors je dis pas, c'est une minorité, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent, ah moi je veux 10 sur 20, ah, c'est compliqué, moi ma vie est très compliquée. Mais c'est quoi ça? Ils sont dans leur landau, ils attendent le petit truc.
En tout cas, voilà, parole d'un ancien 68ard, en tout cas, voilà.
C'était exactement autre chose. Hein,
oui, mais bon, allez, dans un instant, on va parler de Emmanuel Macron et la télé, on va parler également de la Syrie, voilà, le programme à suivre dans les informés de France Info.
FIP présente le jeune groupe soul Theo Lawrence and the Hearts et le bluesman strasbourgeois Thomas Schoeffler en direct dans l'émission Live à FIP le jeudi 19 avril de 20h à 22h à la salle des fêtes de Schiltigheim en Alsace. Un concert exceptionnel à suivre en direct sur FIP, une radio de Radio France.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore un ciel d'averse demain, ça concernera les deux tiers ouest du pays avec un risque orageux l'après-midi de l'ouest du Massif central vers la Normandie et le nord de la Seine. Les régions de l'est, du nord-est jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse s'en sortiront mieux avec des éclaircies. On gagnera quelques degrés, 6 à 12 degrés le matin, 15 à 21 l'après-midi. Dimanche, amélioration, retour d'éclaircies sur la plupart des régions. Seul le nord-ouest gardera un ciel très nuageux avec de la pluie. Côté thermomètre, ça montera encore un peu avec 6 à 13 degrés le matin, 18 à 24 degrés l'après-midi, un peu moins sous les nuages du nord-ouest, 14 à 17. Lundi, des éclaircies, plus de nuages et quelques averses du sud-ouest au nord-est. Et à partir de mardi, ça prendra des allures estivales.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
Et à France Info, il est donc 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Vianney Smirowski, bonsoir.
Bonsoir, Emmanuel Macron a du mal à convaincre, c'est ce qui ressort d'un sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et le Figaro, au lendemain de l'interview du chef de l'État dans le Trésor de TF1. Son action en faveur de la ruralité ou encore l'augmentation de la CSG, ses efforts d'explication n'ont pas suffi, Louise Baudet. Mais il y a tout de même une différence d'appréciation entre les Français qui l'ont vu à la télé et ceux qui ne l'ont pas vu.
Les téléspectateurs qui ont écouté jusqu'au bout le président sont logiquement plus bienveillants. Presque 2 sur 3 l'ont trouvé convaincant. Mais si l'on ajoute ceux qui ont lu ou entendu des commentaires, le jugement est beaucoup plus sévère. Moins 1 sur 2 se dit convaincu. Et ce qui fâche, ce sont justement les priorités présidentielles du jour. L'action en faveur de la France périphérique, les 80 km/h sur les départementales, la hausse de la CSG pour les retraités. Sur ces sujets, les Français interrogés ne sont pas satisfaits, y compris ceux qui ont suivi toute l'interview. Pire, 72% des retraités, soit le public ciblé, n'ont pas trouvé le président convaincant sur la CSG. Bilan plus positif pour lui sur la SNCF, 56% des Français interrogés soutiennent toujours la réforme, mais leur hostilité à la grève est moins forte qu'il y a une semaine. Surtout, les traits d'image du président se dégradent, il est toujours jugé dynamique et compétent, oui, mais un peu moins qu'en décembre. Et ses défauts se sont accentués, jusqu'aux 3/4 des Français interrogés le jugent ni humble, ni proche des gens.
Louise Baudet, Emmanuel Macron contentera de redorer son image dimanche soir. Il sera sur BFM TV, RMC et Mediapart pour un entretien plus long et plus dense. Édouard Philippe et Gérard Collomb étaient en déplacement surprise à Notre-Dame-des-Landes cet après-midi. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont venus écouter et féliciter les gendarmes après les opérations d'évacuation de la ZAD. L'ensemble des objectifs a été atteint, a dit Édouard Philippe, qui précise aussi que l'État n'acceptera pas la réoccupation des sites évacués, mais qu'il tend la main aux zadistes qui acceptent le processus de régularisation. Les deux parties affichent leur satisfaction. Le tribunal de Nanterre a ordonné aujourd'hui le gel d'une partie des avoirs de Johnny Hallyday. La justice a mis sous séquestre tous les droits artistiques du rocker et a interdit à Laetitia Hallyday de vendre ou de disposer des résidences françaises à Marne-la-Coquette et Saint-Barthélemy. Laura Smet et David Hallyday, qui contestent le testament de leur père, réclamaient aussi un droit de regard sur l'album posthume de Johnny, mais ils ont été déboutés. En plein départ en vacances pour la zone C, le trafic des trains sera encore perturbé par la grève des cheminots. Demain, selon les prévisions de la direction de la SNCF, il y aura un TGV et un TER sur 3, 2 Transiliens sur 5 et un Intercité sur 5. Après les soupçons d'une attaque chimique en Syrie, le gouvernement français a recueilli des témoignages de médecins indépendants qui attestent que deux attaques de ce genre ont eu lieu samedi à Douma, près de Damas. La France prendra ses responsabilités, a précisé l'ambassadeur français à l'ONU. La Syrie, elle prévient qu'elle se défendra si elle est attaquée et Vladimir Poutine a mis en garde Emmanuel Macron contre tout acte irréfléchi face à la menace d'une intervention des forces occidentales. Et puis la 33e journée de Ligue 1 de football commence ce soir. Dans un quart d'heure, l'OGC Nice se déplace à Angers. Les Niçois sont 7e au classement. Les Angevins, eux, sont 14e. 20h33 sur France Info. On retrouve Jean-Mathieu Pernin et ses invités pour la suite des informés de France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27.2, la TNT, et eux, ils grignotent au Médiat de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Soazic Kemener de Marianne, l'économiste Frédéric Farah, Virginie Le Petit de Courrier International et l'écrivain et journaliste André Bercoff. Incroyable comme les choses changent vite dans les médias. Hein. Avant, ce qu'on appelait, le mercato, c'est-à-dire, vous savez, la valse des animateurs, passant d'une chaîne à l'autre, avait lieu à la rentrée de septembre, avec quelques nouvelles têtes. En janvier, désormais, c'est toute l'année, et même dans la même semaine, puisque ainsi l'animateur d'émission politique Emmanuel Macron, qui était sur TF1 hier, va être débauché pour une émission sur BFM et Mediapart dimanche. On murmure qu'on le verra sur Radio Latina, d'ailleurs, la radio de la Salsa la semaine prochaine. En attendant, dimanche, nous avons appris que l'interview présidentielle a réalisé un record d'audience assez important, en rassemblant plus de 6 millions de téléspectateurs hier, mais il a eu plus de mal, finalement, à les convaincre. En effet, selon un sondage France Info Odoxa, 72% des retraités ne l'ont pas trouvé convaincant, notamment sur la hausse de la CSG, et l'image du président de la République n'en sort pas renforcée, puisqu'ils sont une majorité qui ne le trouve pas humble, pas proche des gens non plus, et le voit toujours comme le président des riches. Et là, c'est un délicat souci, selon le président de l'Institut de sondage Odoxa, Gaël Slimane. On va l'écouter dans un instant, normalement. On l'a pas, très bien.
À la limite, voilà. Bon, que les gens sont pas convaincus. Comme je ne modifie pas mon projet, ils ne le seront pas après. Mais au moins, ma stature présidentielle va se trouver renforcée. On pouvait l'imaginer, puisque les gens l'ont trouvé plutôt bon sur la forme. Eh bien, patatras, ça n'est pas le cas non plus. Quand on teste les items d'image associés à Emmanuel Macron, il y a des grosses qualités qui lui sont prêtées depuis le début de son quinquennat. Les gens disent qu'il est dynamique, disent qu'il sait où il va, disent qu'il est compétent. C'est toujours le cas après sa prestation, mais moins qu'avant. Et puis tous ses défauts sont encore plus marqués. Président des riches, c'est toujours là. Et de ce point de vue-là, c'est une grosse fragilité pour lui.
Voilà, donc Gaël Slimane, président de l'Institut de sondage Odoxa. André Bercoff, ces interviews finalement là, auxquelles on assiste en ce moment, celle d'hier, celle de dimanche, elles servent à quoi en fait? C'est le service après-vente?
Non, c'est le service pendant-vente. Pendant-vente. Mais vous savez, il faut jamais oublier, et je dis ça pas péjorativement, c'est un transgenre, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un segmentant, c'est-à-dire que j'ai des publics, je sais, c'est le côté de la start-up, voilà, moi j'ai ça. N'oubliez pas qu'avant Pernaud, il était chez les évêques. Et il a parlé aux évêques d'une certaine façon, d'ailleurs on lui a reproché comment la laïcité, non, il savait très bien, il est formidable, parce qu'en même temps il fait d'une pierre deux coups. Il va chez les évêques, ils ont envie d'entendre, et il fait hurler Mélenchon et Hamon, comme de juste et comme c'était prévu. Après, il va chez Pernaud, formidable, la France des profondeurs, la France des agriculteurs, ça a marché, ça n'a pas marché, mais enfin, il passe son message. Et après, il va chez qui? Il va chez les SPS+, le Pernaud des SPS+, Jean-Jacques Bourdin, et la star des Tarek Ramadaniste, Edwy Plenel.
Très bien.
Formidable. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait segmenter, il sait organiser son truc. Après, encore une fois, mais on en parlait avant, c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'il va acter ça ou pas? Parce que vous savez, juste dans les politiques, c'est très bien de parler à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire à tout le monde? Et est-ce que vous les convainquez?
Alors, c'est ça aussi, Soazic Kemener, entre cette interview qu'il y a eu hier et le face-à-face, alors qui a été assez dur au niveau image d'Emmanuel Macron, vous savez, avec l'infirmière du CHU de Rouen, on voyait une certaine déconnexion, mine de rien. Il y a une difficulté d'image, malgré le fait qu'il soit communicant, Emmanuel Macron. Il y a une difficulté aujourd'hui d'image du président de la République.
Oui, il y a un souci, d'ailleurs, même des personnes de la majorité le reconnaissent aujourd'hui sur la question de l'empathie, sur le côté métallique. Il est intelligent, il parle bien, etc. Mais est-ce qu'il fait mine de comprendre la France ou bien est-ce qu'il la comprend vraiment? Donc effectivement, il y a une question qui se pose là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas un hasard. On voit bien que l'opposition aujourd'hui a beaucoup de mal à s'engouffrer, à trouver une brèche, à montrer qu'il pourrait y avoir éventuellement une alternance qui soit crédible face à Emmanuel Macron. Et donc, ce qu'ils essaient, ils jouent justement le rapport pour la droite, notamment entre Emmanuel Macron et les territoires, en disant Emmanuel Macron manque d'empathie. C'est ce qui revient en permanence. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques images. Il y a eu l'image au Salon de l'Agriculture. Vous vous souvenez quand il discute avec un cheminot en expliquant que de toute façon, c'est déjà pas mal d'avoir une retraite parce que les agriculteurs n'en ont pas. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, il met en concurrence l'agriculteur et le cheminot. Face aux aides-soignantes, il y a une séquence qui a beaucoup rappelé, c'est la fameuse séquence de François Fillon.
On se souvient de l'émission politique.
Pendant l'émission politique, pendant la campagne électorale. Donc, effectivement, il a donné plein de bâtons, il a tendu plein de bâtons pour se faire battre sur ce thème-là particulièrement. Et c'est un thème où il peut pas être aidé puisqu'il n'a pas de relais territoriaux, puisque son parti est tout neuf. Il n'a pas de relais politique réel parce que son gouvernement, c'est beaucoup des technos. Donc, on revient toujours à cette question-là.
Frédéric Farah, est-ce que c'est ça aussi son problème? Parce que c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'une majorité l'a suivi, une majorité a dit, c'est Emmanuel Macron, il fait son job, mais ils n'ont pas été séduits.
Non, parce que, honnêtement, si on regarde le discours de Macron, on l'écoute, il nous tient un discours que les autres présidents avant lui tenaient, il propose en matière économique à peu de choses près ce que d'autres ont pu dire avant lui, avec un ton peut-être plus dynamique, avec plus d'allant. Il nous raconte une histoire qu'on a déjà entendue 100 fois, la France est bloquée, la France n'avance pas, la France est corporatiste, la France est crispée, moi je vais mettre de la concurrence, tout ça, ça va être formidable, ça va être dynamique, la vie est une start-up. Bon, ok, on l'a déjà entendu 1000 fois, il nous le répète encore, et il n'arrive pas à se détacher de cette condescendance qui le caractérise. C'est-à-dire, quand il dit, carabistouille, les examens sont pas en chocolat, etc. Mais à qui il parle, en fait? Je veux dire, cette façon de parler est absolument insupportable. Et je crois qu'effectivement, les gens le comprennent très bien. Et puis quand il dit, j'ai demandé un effort aux personnes âgées, je leur dis merci. Puis, d'un air très content de lui. Mmh. Ça devient insupportable, dans le fond, quand on y pense.
Ah c'est en même temps, alors c'est son langage, je ne sais pas son vocabulaire, est-ce qu'on peut juger là-dessus, mais c'est vrai que carabistouille, alors c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui l'avait déposé pendant la campagne. Virginie Petit, sur justement Emmanuel Macron, est-ce que le sondage, là, vous le trouvez finalement juste?
On lui reproche ce qu'il est depuis le début, de toute façon. C'est pas quelqu'un qui a laissé entendre qu'il était humble. Le président des riches, c'est quasiment un péché originel. Depuis le début, ça lui colle à la peau, la banque Rothschild, etc. Donc, il sera à jamais le président des riches. Il n'arrivera jamais à se débarrasser de ça. Et d'autant plus si, effectivement, il va pas en faveur des retraités et qu'il fait rien.
Mais lui trouve ça injuste comme étiquette. Parce qu'il se dit, regardez, moi, je suis le président de la République, j'ai été élu au second tour et je ne suis pas pour lui, dans sa tête, je ne suis pas le président des riches.
Moi, je suis pas dans sa tête. mais tout ce qui lui est reproché là, moi, c'est présent depuis le début et c'est présent avant l'élection. C'est ce qu'il est de toute façon.
Mais André Bercoff, rapidement.
Non, très rapidement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est arrivé et il a dit je vais faire le contraire de ce point de vue de ce que faisait Hollande en ce qui concerne la parole et la communication. Rappelez-vous, le Hollande commentateur de son inaction ou pas. Et aujourd'hui, et effectivement, il avait repris cette théorie de Pilon, la parole rare, et c'est qui reste extrêmement valable, d'autant plus aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Eh ben, aujourd'hui, il refait le tsunami. C'est très bizarre parce que lui-même disait, moi, je suis pas là pour commenter, je suis là pour agir. Et puis ça recommence.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h41, Marc Potvin.
Le scénario des attaques chimiques de Douma en Syrie se précise. Du chlore a été utilisé lors de la première frappe, du chlore et un autre agent neurotoxique lors de la seconde. La France a la preuve que tout ça est l'œuvre du régime syrien. Elle réfléchit à une éventuelle riposte militaire avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Les tirs de l'armée israélienne ont fait une nouvelle victime dans la bande de Gaza. Un Palestinien est décédé aujourd'hui. Plus de 120 autres ont été blessés par balles. Ils participaient à des manifestations le long de la frontière avec Israël. Depuis le début des protestations, fin mars, 34 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Le premier acte judiciaire dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, chaque camp a remporté une demi-victoire aujourd'hui. Le tribunal de Nanterre satisfait David Hallyday et Laura Smet en gelant partiellement les biens du rocker. Le camp de Laetitia Hallyday a aussi une raison de se réjouir. Les deux aînés de Johnny n'auront pas de droit de regard sur son dernier album. Une relaxe et quatre condamnations à l'issue du procès. procès de la filière djihadiste de Lunel, Hamza Mosli et Jawad Sali écopent des peines les plus lourdes. Le premier est condamné à 7 ans de prison, le second à 5 ans. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu'ils ont encouragé le départ d'une vingtaine de jeunes en Syrie. Et puis en football, début de la 33e journée de Ligue 1 ce soir. Dans moins de 5 minutes, coup d'envoi d'Angers-Nice. Au classement, Nice est 7e, Angers 14e.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, je ne sais pas ce que, si vous regardez quelque chose dimanche soir à la télévision, mais bon, bah, si vous allez vers BFM, peut-être que vous trouverez quelqu'un que vous avez déjà vu quelque part, et c'est Emmanuel Macron, puisque ça sera sa deuxième interview dans la semaine. Cette fois-ci, fini la ruralité, fini Jean-Pierre Pernaut, ce sera Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Alors, un attelage assez étonnant, inédit, sous Yves Kemener.
Baroque, même.
Voilà, oui, exactement. Alors, beaucoup de sujets ont été abordés jeudi. Est-ce qu'il n'y a pas comme un trop plein, là, mine de rien. Parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé, d'ailleurs, qu'un président de la République parle deux fois de cette manière.
Pas ma connaissance, et je ne pense pas. Je n'ai pas absolument tout vérifié, mais je crois que ça n'est jamais arrivé.
Alors, la thématique de dimanche, ça sera sur les 1 an de la présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a, lui, des coups à prendre ou quelque chose à gagner, finalement, là, dont...
La question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il stérilise le débat. Parce qu'on ne va parler que de ça de jeudi, enfin de mercredi soir jusqu'à lundi midi, ouais, à peu près. Donc c'est un moment important puisqu'il est en train d'essayer de gagner une bataille contre les cheminots. Donc il occupe le terrain, première chose. Deuxième chose, est-ce que son intervention de dimanche ne va pas cannibaliser celle de jeudi? Ça c'est une vraie question, un vrai sujet. Troisième chose, on a appris par nos confrères du Figaro aujourd'hui la manière dont serait disposée la table, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y aura... Emmanuel Macron au milieu, vous parliez tout à l'heure d'un présentateur, bah, il sera à l'endroit du présentateur, et il aura, alors je sais pas si c'est à sa gauche ou à sa droite, en tout cas, d'un côté Edoui Plenel, et de l'autre côté Jean-Jacques Bourdin. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il va pas y avoir un débat entre Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin,
Je suis
vraiment...
inquiet parce que là, il est prêt à me voler ma place, en fait, là.
Ça va être un moment assez étonnant, si les informations du Figaro sont confirmées, mais visiblement, c'est ce vers quoi on s'achemine aujourd'hui au palais de Chaillot.
Ouais, c'est
vrai que c'est un moment assez étrange. Alors pourquoi il le fait maintenant? Il va parler des 1 an de son quinquennat, parce qu'ensuite il y a beaucoup de déplacements internationaux. Il va notamment aux États-Unis en voyage d'État à la fin du mois d'avril. Donc il y a beaucoup de...
Il va en Russie,
en Nouvelle-Calédonie. Enfin, là c'est pas un déplacement international, mais il y a beaucoup de déplacements long courrier en tout cas qui sont prévus. Et c'est pour ça qu'il s'exprime maintenant. Mais c'est vrai que c'est il ne faut pas que ça vire au spectacle. C'est ça le risque principal.
C'est ça, André Bercoff aussi, vraiment le spectacle. On l'a vu jeudi, on le voit maintenant dimanche. On a l'impression que, voilà, aussi Emmanuel Macron, là, on l'a bien compris, il faut qu'il s'expose par rapport aux différentes colères. Est-ce qu'on ne fait pas toujours aussi très attention au cadre, enfin, etc. Voilà,
est-ce qu'il y a pas un spectacle ? Oui, mais encore une fois, la vraie raison, c'est pourquoi il parle autant. Parce que, je vais dire, je l'ai dit déjà, la segmentation. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est vrai, vous dites que c'est probablement la première fois, je ne sais pas, mais c'est quand même hallucinant qu'il parle jeudi et dimanche. Je veux dire par là que, moi, ça m'a absolument frappé. Pourquoi? Parce que je repense à Hollande, sans doute.
Oui, bien sûr,
comparer.
Mais c'est la même semaine.
Hollande n'arrêtait jamais de commenter. N'oubliez pas qu'il a fait 100 heures uniquement avec Davé et l'homme pour bien le sûr. Fameux un président ne doit pas dire ça, etc., etc. Il a fait, je ne parle pas des autres journalistes qu'il a reçus. Qu'est-ce qui arrive à Macron? C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai l'impression que là, il y a un vrai décalage. Les gens, aujourd'hui, n'attendent plus que le président leur parle. Ils attendent que le président fasse quelque chose et qu'ils sentent, au bout d'un moment, les effets. Sinon, c'est quoi? C'est pour dire quoi? Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait jeudi, vous voyez, tout le monde dit, comment ça se fait qu'ils n'ont pas été convaincus? Ouais. Mais on n'est pas convaincus comme ça dans une salle de classe et en un quart d'heure, on va changer la chose. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard, jamais une émission de télévision n'abolira la réalité.
Virginie Petit.
Oui, je sais pas, quand même, la fonction présidentielle dans la Ve République, elle est construite de telle façon que je vois pas comment il pourrait rester tout le temps silencieux. Il a quand même une obligation, mais moi, je pense quand même qu'on attend de lui qu'il intervienne à certains moments et qu'il parle.
Pas tout le temps.
Ah bah évidemment pas. Oui, pas ouais. En tout cas dans des séquences aussi rapprochées. Mais il peut pas rester en permanence silencieux.
Sois-y qui m'énerve.
Mais je crois que le problème aussi, c'est que le macronisme, c'est que Macron. C'est-à-dire qu'il est le seul à avoir la clé de ce qu'il est en train de faire. Oui. C'est-à-dire que son premier ministre, il n'était pas là pendant la campagne. Il a été débauché de l'équipe d'en face, de LR. Donc il se retrouve coincé. C'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir expliquer. Et comme il est le seul à pouvoir expliquer, il se retrouve dans ces situations un peu ubuesques, c'est vrai, à parler à 3 jours d'intervalle.
Oui, Frédéric Farah.
Je crois aussi, c'est la transformation de la Ve République avec le passage du septennat au quinquennat. C'est-à-dire que ce passage-là a transformé le président de la République en un chef de parti. Alors, certes, il n'y a pas de parti en marche ou il y en a peu, donc le parti, c'est lui-même, d'une certaine façon. Donc, dans le fond, cette idée de président, arbitre, capitaine, au-dessus, etc., à partir du moment où on fait coïncider le mandat avec celui des députés, ça devient un chef de parti, donc il va dans l'arène, qui s'exprime, et comme effectivement le macronisme se résume à Macron et qui est une énième déclinaison, comme je disais, des politiques un peu précédentes, c'est-à-dire un certain libéralisme, il doit faire effectivement un peu le VRP.
Est-ce que finalement, juste une dernière chose, André Bercoff, vous le disiez, Frédéric Farah, le fait d'être dans un quinquennat, on l'a vu depuis Nicolas Sarkozy, les présidents interviennent même presque davantage. Ça veut dire aussi, est-ce que ça correspond à l'époque aussi où on parle beaucoup, il y a des réseaux sociaux, il y a etc. Est-ce qu'à un moment, le président doit coller à cette époque-là?
Non mais, enfin, personnellement, je pense que ce devrait être le contraire. Alors, je ne dis pas qu'on revient à De Gaulle qui faisait ses conférences, etc. Je dis simplement que dans la mesure où du matin au soir, nous sommes bombardés à la nanoseconde d'informations, de déclarations, de slogans, etc., tout le monde est bombardé, la parole présidentielle, justement parce que c'est la Ve République, le corps du roi, etc., etc., devrait être non pas rare, mais elle ne devrait intervenir que dans des moments extrêmement précis. On n'a pas besoin de lui. Alors, vous dites, effectivement, cela dit, Macron est tout seul. Il devrait un peu plus utiliser ses équipes, ou alors s'ils sont incapables de parler,
problème,
c'est un problème.
Il y a aussi une autre chose.
Il n'y a pas que des muets du sérail, quand même, j'espère.
Mais non, pas que ça. Mais il a aussi un souci, c'est qu'il est dans une situation de monopole absolu. C'est-à-dire, il a la majorité. Alors, il a pas les villes encore et les régions.
On verra
plus tard, et pas le Sénat non plus. Mais dans une majorité de, c'est-à-dire que dans le discours, c'est beaucoup. Il n'y a pas d'alternative. C'est très satchérien. C'est Iron Man un peu. On avait Iron Lady, Margaret Thatcher, et là il y a quelque chose d'un peu comme ça. Et donc il a besoin aussi de prouver qu'il accepte la contradiction, parce que pour l'instant on n'a pas cette preuve là. Et donc c'est vrai que dans ces émissions, d'ailleurs Jean-Pierre Pernaut, moi je trouve qu'il s'est bien débrouillé, pendant toute l'émission il était, c'est pas évident de faire ça, président des riches, président, il l'a martelé parce qu'il sait que c'est ce que pensent ses téléspectateurs, mais je trouve qu'il a bien porté la voix de ses téléspectateurs. Et donc dimanche il va aussi devoir prouver face à Edu Plenel et Jean-Jacques Bourdin, et ça va peut-être pas être facile, qu'il est capable de supporter la contradiction. Ça, je pense que c'est important.
Allez, on verra ça en tout cas dimanche soir. Allez, l'info à 20h50, Marc Potvin.
Le Premier ministre prévient les zadistes, l'État n'acceptera pas la réoccupation des sites évacués. Édouard Philippe s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. D'après lui, l'ensemble des objectifs a été atteint. Il précise que 29 squats ont été détruits et qu'une cinquantaine de gendarmes ont été blessés. Trafic encore perturbé demain à la SNCF à cause de la grève des cheminots. Le groupe prévoit un TGV et un TER sur 3 côté transilien, compté 2-3 sur 5, de trains sur 5 en moyenne. Cheminots et étudiants ont défilé ensemble cet après-midi à Paris. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette manifestation. Une saisie de drogue importante la nuit dernière en Seine-et-Marne. Plus de 2 tonnes de cannabis transportées par 2 personnes de nationalité roumaine. L'une conduisait un camion, l'autre un véhicule qui ouvrait le convoi. Il arrivait d'Espagne. C'est une information de la cellule investigation de France Info. Une dizaine de personnes sont mortes après avoir consommé des fromages au lait cru entre 2015 et 2016. Du Morbier par exemple, mais aussi du Mont-d'Or. Tous contaminés par des salmonelles. Les victimes étaient le plus souvent des personnes âgées à la santé fragile. Après cette crise, les contrôles ont été renforcés. Et puis les merci à répétition adressés aux retraités n'ont pas suffi. Emmanuel Macron ne les a pas convaincus sur la hausse de la CSG hier au 13h de TF1. C'est ce que révèle un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info. 7 retraités sondés sur 10 continuent de penser que c'est une mauvaise mesure.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors depuis le milieu de la semaine, les choses se sont accélérées concernant la Syrie et une intervention occidentale suite à l'attaque supposée chimique survenue à Douma samedi dernier. Alors que Donald Trump se prenait les pieds dans ses tweets, voilà, c'est une expression très 2018, en parlant des missiles puis en se rétractant, expliquant qu'il pourrait y avoir une attaque ou pas, Emmanuel Macron affirmait lui hier sur TF1 qu'il y avait bien les preuves d'une attaque chimique. Depuis, Long silence, hein. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont parlé au téléphone. Puis, dans un communiqué, le président russe a déclaré qu'il est essentiel d'éviter toute action irréfléchie et dangereuse qui serait une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et qui aurait, je cite, des conséquences imprévisibles. Toujours une forte tension et désormais, le débat s'invite même chez nos parlementaires puisque nombreux sont ceux désormais à réclamer un débat sur une possible intervention. C'est notamment le cas du président de groupe Les Républicains, Christian Jacob.
Si une décision doit être prise, elle doit être prise avec beaucoup de sang-froid. Et je pense que ça justifierait qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, un débat sans vote, bien entendu. Vous savez que c'est au titre de l'article 35 de notre Constitution. Il peut y avoir après l'intervention, mais on pourrait aussi avoir une communication du Premier ministre, un débat sans vote. L'exécutif, et ce qui est normal, a accès à des informations que nous n'avons pas en tant que parlementaires. Oui. Donc, je pense qu'on peut éclairer la représentation nationale sur ce sujet avant de prendre une décision.
Christian Jacob, ce matin sur Europe 1, l'article 35, en effet, de la Constitution introduit ce débat, mais sans vote, c'est utile ? Ça serait utile, ce débat, André Bercoff ?
Juste un mot, on a parlé de la parole, mais je voudrais relire, juste un mot, vous avez dit, il n'a pas convaincu les retraités, juste un mot, imaginez un retraité, et il y en a beaucoup, qui ont vu 100 euros en moins, là, en ce moment, sur les 1200 euros, 1100 euros qu'il y a. Évidemment, la parole ne comptera pas. Là, juste un mot sur la Syrie. Je suis très frappé. Je ne sais pas. Hein, personne d'entre nous ne sait ce qu'il a eu exactement. Il y a eu attaque chimique, de quel côté tout ça. Il dit Emmanuel Macron, j'ai les preuves que c'est le régime de Bachar el-Assad. À ce moment-là, tu les montres les preuves. Tu le dis. Ça ne suffit pas et ça ne marche pas quand on dit j'ai les preuves. Ça rappelle Colin Powell avec le truc d'Irak. Pardon. Je veux dire, si tu as les preuves, la chimie ça se voit, c'est pas un truc volatile, c'est pas fantomas. Donne les preuves, donne-les. Alors, et alors, à ce moment, on y va.
Virginie Petit, il y a deux groupes d'experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui arriveront en Syrie demain, soit une semaine après. Est-ce qu'ils peuvent trouver
quelque
chose?
Pourquoi ils n'ont pas attendu?
Si, en l'occurrence, c'est assez volatile quand même. Ouais. Ce qu'ils vont trouver, c'est les traces sur les corps, en fait. Hein. Ouais. C'est l'action des gaz neurotoxiques, parce que visiblement, quand même, malgré tout, c'est une attaque chimique. Ouais. Effectivement, qui l'a menée, on ne le sait pas, mais quand même, les autorités américaines et l'armée américaine ont montré, il y a déjà plusieurs mois, des capacités du régime syrien à produire ce genre de gaz.
Mais des rebelles aussi.
Oui, mais celles qui étaient les plus massives, c'était celles du régime. Oui. Voilà. Maintenant, Donald Trump s'est emballé comme souvent.
Oui, alors c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est la différence de tweet. Alors, il s'est emballé sur la Russie en disant « j'ai des missiles énormes, attention ». Et après, c'est « on intervient ou pas ».
Dans un premier temps, c'est comme toujours, ne faire le contraire de ce qu'a fait Obama. Obama avait dit « si vous franchissez la ligne rouge, on ira ». Il n'y est pas allé. Et là, il a commencé par s'emballer. Et puis, quelqu'un a dû lui dire non, mais attention.
Attention, André Bercoff.
Pardon, c'est pas ça.
Allez-y, André.
Très simple. La stratégie de Trump a toujours été je fonce, je vais vous montrer que, et après, je recule et je négocie. Qu'est-ce qu'il a fait avec la Corée du Nord? Il y a 4 mois, qu'est-ce qu'il disait? Je vais vous raser. Il disait, je vais raser la Corée du Nord si Kim Jong-un se prend. Il fait la même chose. Je sais pas si ça va marcher. Il fait exactement la même chose. Mais je sais pas si Bachar el-Assad et Kim Jong-un.
Et pour terminer, c'est effectivement assez contradictoire avec quelque chose qu'il dit depuis plusieurs semaines, qui est qu'il veut retirer les troupes américaines de Syrie. Puisque, de toute façon, la réalité, c'est que sur le terrain, Bachar el-Assad est en train de reprendre le contrôle complet du pays. Donc, la question maintenant, si on n'intervient pas et si ces frappes chimiques ne sont pas attribués au régime. La question qui se pose et qui est en train d'être réglée actuellement par la Russie, l'Iran, la Turquie et Bachar el-Assad, c'est comment on se partage l'influence sur le terrain.
C'est ça. Justement, Sonic Kemener, au niveau politique française, c'est utile ce débat. Il aura sûrement lieu, non, ou pas, ce débat? Je suis retombé sur une archive, en 2013, quand François Hollande, lui, à un moment, souhaitait. Et il y avait eu cette question à l'époque, faut débattre. Et donc, tout le monde a dit, oui, on va faire un débat sans vote pour que chaque groupe puisse s'exprimer. C'est toujours des questions délicates à manier pour le gouvernement en place, parce que même s'il n'y a pas de vote, ça peut imprimer l'opinion.
Sur des questions comme celle-là, moins que sur d'autres, je pense. Ouais. Je pense que là, la question politique essentielle, c'est que Emmanuel Macron a dit qu'il avait des preuves, effectivement. Donc il y a une ligne jaune-rouge, comme on veut, qui a été franchie. Et donc c'est difficile d'imaginer que politiquement, il n'y a pas de réaction d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il a inscrit son action de cette façon-là, globalement. Je dis, je fais.
Bien sûr, ouais.
Donc là, à partir du moment où il annonce, il dit à la télévision, jeudi, qu'une ligne a été franchie, il faut qu'il y ait une réaction d'une façon ou d'une autre. Mmh. Donc après un débat au Parlement, c'est toujours important que le Parlement s'exprime et débatte, bien entendu. Mais c'est pas là que la décision va être prise.
Bon, en tout cas, bien sûr, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Merci beaucoup, André Bercoff, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci, Frédéric Farah. La une de Marianne Soizic-Kemener.
Alors, une photo d'Emmanuel Macron à droite, tout le liquidateur, avec notamment, il méprise les syndicats, ignore les cheminots, maltraite les fonctionnaires et cajole les catholiques.
Eh ben voilà, une. Virginie Le Petit, la une de Cour Internationale.
La fête est finie pour les géants du net.
Voilà, concernant le scandale Facebook notamment. Oui, et vous avez un hors-série sur les villes.
Sur les villes où s'invente le futur, c'est partout. Et voilà.
Et à trouver en kiosque et donc à acheter en tout cas. Merci beaucoup.